Période pendant laquelle on mange mal, mais qui nourrit la conversation pour la vie. Pierre Daninos, né le 26 mai 1913, décédé le 7 janvier 2005, est un écrivain et humoriste français. Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes bien le 13 juillet 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien, dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour.
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 Notre thème du jour, service national et les missions de l'armée auprès des jeunes. Pour cela, nous recevons au studio Philippe, adjudant dans l'armée de terre.
Enchanté.
Et nous aurons deux interviews de Jade. Alors, pour commencer, connaissez-vous les grades de l'armée ? Je vous lis une petite phrase, et puis vous essaierez de les trouver. En général, RVM est un lieu tenant aux valeurs fortes. Gardant son cap oral et écrit, rédigé sur une colonne, elle-même sculptée par un état-major de bénévoles, dirigé par Sylvie, qui va nous décrire le thème du jour.
Oh, bravo. Bien. Alors, l'armée et les jeunes. Alors, il existe diverses missions d'intérêt général au service des jeunes dès l'âge de 15 ans. Nous allons découvrir ensemble ces dispositifs en passant par le service national universel SNU, le service militaire du volontariat SMV, la réserve opérationnelle, EPID, etc. Alors, le service national universel, le SNU, est un programme mis en place par le Premier ministre français Édouard Philippe à compter de 2019 afin de remplacer, alors indirectement, le service militaire en France. Et là, alors j'ai l'adjudant qui me fait des gros yeux et qui me dit non, 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 non. Allez, Philippe.
Exactement. Bah, ça ne remplace pas, en fin de compte, le SNU ne remplace pas le service militaire actif. L'ancienne conscription qui existait avant, donc, c'était à faire appel aux jeunes français, donc tous les garçons de plus de 18 ans, et les demoiselles, si elles étaient volontaires, pouvaient l'effectuer. Mais c'était vraiment une formation militaire.
Militaire,
oui,
que là, non.
On apprenait aux jeunes donc, à pouvoir défendre la nation, mais défendre la nation par les armes. Le SNU n'a rien à voir avec ça, il n'y a pas de formation militaire. Au SMV, il y a de petites formations militaires, mais le SNU, lui, aucune.
D'accord, ok. Alors, le service militaire en France, ou appelé aussi service national français, a été adopté le 5 septembre 1798 par la loi Jourdan d'Elbrel. Alors, Jean-Baptiste Jourdan, on va faire un petit historique, hein, était un militaire français ayant accédé à la dignité de maréchal d'empire récompense remise par l'empereur Napoléon Ier, ce qui lui confère en outre des titres de noblesse, de rente, de divers privilèges. Pour cette loi, Jean-Baptiste Jourdan a été aidé par le député Pierre Delbrel. Le principe de cette loi, tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. En 1996, le président de la République française de l'époque, Jacques Chirac, veut professionnaliser les armées et suspendre le service militaire obligatoire pour les hommes entre 18 et 21 ans. Ça va, l'adjudant me fait signe de la tête, donc jusque-là, c'est bon. Le 28 octobre 1997, la loi est promulguée. En 2001, la conscription est suspendue. Alors la conscription, hein, c'est la réquisition d'une partie de la population par l'État afin de servir les forces armées. Un parcours citoyen verra le jour pour tous, avec plusieurs étapes, dont la journée de défense et de citoyenneté appelée JDC, et tout ça avant les 18 ans des jeunes. Puis en 2017, rebondissement, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron annonce dans son programme son souhait de rétablir un service national universel d'une durée d'un mois. En 2019, le Premier ministre François-Édouard Philippe va mettre en place ce dispositif qui viendra renforcer le parcours citoyenneté étudié en enseignement moral et civique depuis l'école primaire, ce qu'on appelle donc EMC. Ce parcours citoyenneté se clôturera avec la journée défense et citoyenneté. JDC, auriez-vous l'amabilité de nous donner quelques infos sur cette journée, Philippe ? Comment se passe cette journée de défense et de citoyenneté ?
Alors déjà, je vais commencer par rectifier une petite erreur.
Encore ?
Toute petite. La JDC, ce n'est pas avant ses 18 ans. Dans le meilleur des cas, effectivement, ça se passe dans la 17e année. Mais souvent, comment expliquer ? La première phase, c'est de se faire recenser à la mairie. Ça, oui. C'est aux 16 ans. La deuxième phase, les mairies, avec les listes des jeunes qui se sont fait recenser, envoient au BSN, donc là c'est le BSN de Creil, envoient la liste des jeunes.
Ça veut dire quoi BSN ?
Bureau du Service National. Tout à fait. C'est que des civils, mais sont sur une base aérienne. Donc toujours est-il qu'ils font la liste des jeunes qui ont été recensés et ils leur envoient des convocations. À savoir que souvent les jeunes oublient de mentionner qu'ils déménagent.
Ah.
Donc les convocations n'arrivent pas au bon endroit ou arrivent en retard. Donc en fin de compte, le jeune doit effectuer sa JDC avant sa 25e année.
D'accord.
Voilà. Donc entre 18 et 25 ans, ils peuvent faire leur JDC. Il y a certains jeunes qui ne répondent pas aux convocations aussi.
Oui. Ah, dans ce cas-là, ça se passe comment quand ils ne répondent pas?
On leur renvoie des convocations et puis après, ils se rendent compte qu'à 25 ans, j'ai besoin de la JDC pour m'inscrire au permis de conduire.
Oui, parce que la JDC est obligatoire pour certaines choses, notamment pour le bac.
Le bac, le permis de conduire et plein d'autres choses. Mais il faut savoir que certaines auto-écoles ne demandent pas la JDC.
Mais pour le bac, si.
Oui.
Mais pour le bac, voilà, oui.
Moi, j'ai vu un jeune se présenter à la JDC. Il avait 25 ans. Il venait parce qu'il voulait avoir le permis chasse. Oui. C'est pour ça qu'il venait faire sa JDC. Pour le permis chasse. Bon, ça
le
arrive.
Le permis chasse, d'accord.
Oui, donc voilà. Alors, la JDC, comment elle se passe? En fin de compte, c'est, comme vous le dites, c'est pour quelque chose qui doit clôturer le parcours citoyen. C'est-à-dire qu'on va parler un peu des armées, mais ce n'est pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est la citoyenneté. Le gros du sujet, c'est le vivre ensemble. En fin de compte, c'est ce que vous allez retrouver au SNU.
D'accord.
Voilà. C'est ça, le gros du sujet.
La mixité, etc.
Tout à fait, c'est ça. C'est le vivre ensemble, c'est l'engagement, mais pas que l'engagement militaire, c'est l'engagement dans toutes les choses qu'un citoyen pourrait faire. On parle souvent de l'engagement dans les associations, on parle souvent d'engagement en politique. Souvent, vous avez des jeunes, ils ne savent pas qu'il y a le conseil municipal de la jeunesse, ils ne savent pas qu'il y a le conseil de l'Assemblée nationale de la jeunesse, tout ça, ils ne le savent pas. Et c'est une forme d'engagement aussi pour le bien de la communauté. Donc c'est surtout axé sur ça, la JDC. Il y a un rapport à la défense, parce que la défense, c'est aussi la citoyenneté. Il faut défendre notre nation. Donc on en parle un peu, mais ce n'est qu'une partie, je dirais, des trois gros thèmes qui sont
abordés,
oui, dans cette période-là.
Il y a un écrit, je crois, aussi, non? Pas du tout, c'est terminé, ça?
Non. Alors, il y a des tests.
Des tests, oui, voilà, c'est ça.
Vous parliez des tests.
C'est ça.
Alors ça, c'est à charge de l'éducation nationale, en fin de compte. On s'est rendu compte, malheureusement, que la jeunesse, toute la jeunesse française, il n'y avait qu'au temps du service national, le service actif, où on pouvait la regrouper au même endroit et vérifier si les prérequis acquis à l'éducation nationale portaient leurs fruits. Et comme le service national a été suspendu, il n'y avait plus de moment où on pouvait se rendre compte s'il y avait des lacunes dans la jeunesse française. Donc on a profité de la JDC, on a confié cette tâche donc à l'éducation nationale de créer des tests pour vérifier le niveau de français et d'écriture et de compréhension de la jeunesse.
De texte.
Ouais, tout
et
à fait.
D'orthographe.
Oui, d'orthographe aussi.
Ça, je pense quand même que l'éducation nationale est capable aussi de faire un topo là-dessus.
C'était pour faire un bilan. Un bilan suite à la fin des études.
Des
ils sont encore en études. On fait le bilan et on voit. En fin de compte, les résultats, il faut savoir que les résultats de ces tests ne sont pas communiqués ni aux armées ni à rien du tout. C'est communiqué directement au directeur d'établissement. Donc, c'est-à-dire que le directeur de l'établissement du jeune qui a passé sa JDC reçoit les résultats. Et là, si jamais il se voit que le bilan n'est pas bon, il peut mettre en place des séances de soutien, de rattrapage, pour aider. Il lui propose au jeune. Après, c'est lui qui dit oui ou non.
Oui, d'accord.
Mais c'est, en fin de compte, c'était pour faire ça au départ. Voilà.
OK. Alors, le SNU, je vais voir si je dis encore des bêtises, se déroule en trois phases. Un séjour de cohésion de 2 semaines, une mission d'intérêt général, soit 84 heures minimum hors temps scolaire, puis la possibilité de poursuivre un engagement de 3 mois minimum dans un dispositif de volontariat comme le service civique qui est indemnisé ou par un bénévolat. Cette troisième phase est facultative et peut être réalisée jusqu'aux 25 ans du jeune. Alors, l'intention du SNU, là je vais vous laisser parler, mais est de permettre l'émancipation des jeunes, éduquer à la citoyenneté, développer le sens de la cohésion ou mixité sociale. Or, les valeurs civiques, le sens de la citoyenneté et le vivre ensemble sont étudiés dans nos établissements scolaires. Alors, beaucoup de critiques fusent sur le dispositif SNU, on va quand même en parler, qui promulgue ces jours de cohésion sociale de 12 jours pour les fédérations des parents d'élèves. La mixité sociale se construit chaque jour en donnant à l'école publique les moyens nécessaires pour y parvenir. Et l'école est un lieu d'enseignement pour développer la citoyenneté et ses valeurs, prendre conscience des droits, des devoirs, des responsabilités de chacun dans le respect de l'autre. Le SNU, on est d'accord, est un lien qui a été fait entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées. Non, qu'on me fait signe. Quel est l'objectif recherché? Oui, c'est pas un lien, mais disons que c'est le gouvernement qui a travaillé et d'un côté pour mettre le SNU et d'un côté avec le ministère de l'Armée et le ministère de l'Éducation nationale. Non, vous avez chacun votre rôle, donc je vais poser quand même ma question avant. Voilà. Quel est l'objectif recherché en mettant en liaison ces deux institutions qui contribuent donc aux enseignements des valeurs de la République et de la démocratie? N'oublions pas le mot démocratie. Mm-hmm. Quelles sont les compétences, l'expérience de chacun pour accomplir cette tâche? Alors, allons-y.
Alors déjà, le SNU, c'est l'Éducation nationale. Le ministère des Armées et de l'Espace n'intervient qu'en tant que partenaire, mais c'est tout. D'accord. On n'organise rien, on ne fait qu'intervenir, et encore, si on nous le demande. Donc c'est pour ça.
Ah oui.
Oui, oui. En fin de compte, le SNU, c'est vraiment l'Éducation nationale qui est en charge de monter, de préparer. Pour cela, ils sont obligés d'avoir des encadrants. Ces encadrants, c'est des volontaires de la société civile, ou des volontaires, des anciens militaires. Ça peut être n'importe qui. Vous vous proposez, ils sont rémunérés, ils sont là pour encadrer des jeunes. C'est ce qu'on appelle des maisonnées, en fin de compte. Il y a un chef de maisonnée, après il y a un directeur de l'établissement, il y a de la logistique et tout ça. Mais c'est l'Éducation nationale.
Mais alors pourquoi c'est un petit peu dommage de l'avoir appelé Service national universel. Parce qu'en fin de compte, les gens mélangent tout.
Non, c'est parce qu'il y a l'ancienne compréhension du service national militaire. Tout le monde voit, quand on dit service national, on voit l'armée, les drapeaux, les couleurs, les jeunes conscrits. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi, service national? C'est se mettre au service de la nation. Il n'y a pas que les militaires qui sont au service de la nation. Les professeurs sont au service de la nation. Les infirmiers sont au service de la nation. Tous ceux qui servent les citoyens sont au service de la nation. Donc, en fin de compte, j'irais faire un amalgame. C'est exactement ça. Le service, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de service national quand je parlais d'avant. Je parle de service militaire actif.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que les jeunes, ils venaient faire leur service. Ils avaient une carte à l'époque qui s'appelait le SMA, Service militaire actif. Pourquoi? Parce que c'était vraiment militaire. Le SNU, c'est un service au nom de la société, au nom de la nation. C'est effectivement, alors vous allez voir dit dans les journaux, dans les textes, chez les journalistes, oui, c'est militaire parce qu'il y a le monté des drapeaux et ils chantent la Marseillaise. Mais le 14 juillet, il y a plein de gens qui voient la montée de drapeau et qui chantent la Marseillaise, ils ne sont pas en uniforme.
Et puis avant, quand on passait le certificat d'études, effectivement, en CM2, je crois que c'était à l'époque, on apprenait la Marseillaise.
Tout à fait. Et je dirais même, les uniformes, il n'y a pas que les militaires qui en portent. Vous allez dans l'éducation nationale en Outre-mer, tous les élèves ont un uniforme.
Oui, dans les écoles privées.
Non, parfois. Public.
Oui, mais privé aussi, hein, ils parlent d'uniforme.
Mais public, c'est ça. C'est pour effacer...
Oui, effacer, bien sûr.
La différence. Tout le monde est logé à la même... Alors, l'uniforme, c'est quoi? C'est un short et un t-shirt en Guyane, par exemple, vous voyez. Il vaut mieux mettre short et t-shirt, il fait trop chaud. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, le but réel, c'est de faire de la cohésion nationale. En fin de compte, c'est de mettre des jeunes qui sont issus de tous les horizons, de toutes les origines, toutes les religions... et de les mettre ensemble dans un endroit pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils apprennent à collaborer, qu'ils apprennent à s'apprécier mutuellement. Le SNU, on a un peu discuté avant, c'est quelque chose qui devait être normalement obligatoire.
Oui.
Pour l'instant, ça ne l'est pas.
Mais en même temps...
C'est en passe.
Alors non, parce que le Parlement a demandé un report.
Un report.
Justement, oui. Normalement, ça aurait dû être fait en 2024, mais ça n'a pas encore fait. Okay. Ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, le volontariat, c'est quelque chose que le peuple français est très friand.
Parce que là, j'ai vu dans des derniers documents, là, les articles, que ils étaient sur l'option de justement le SNU, supprimer la journée la GDC, là, puis de mettre le SNU à la place.
Oui, c'est ce qu'ils voulaient faire à l'origine. Mais normalement, ça devait être fait déjà depuis un moment.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont pas pu à cause du Covid, parce qu'on ne pouvait pas regrouper trop de jeunes comme ça à cause du Covid. Là, normalement, ça aurait dû être fait en 2024, mais il y a une demande de report pour voir encore un peu. On attendait 50 000 volontaires, on en a eu 32 000.
32 000.
Bon, déjà, 32 000 jeunes qui sont volontaires, c'est déjà beau.
C'est vrai que les gens se posent quand même des questions parce que c'est marqué qu'ils veulent le généraliser.
Oui.
Donc, c'est ça qui fait aussi un petit peu peur, je pense, aux fédérations de parents d'élèves, aux syndicats des professeurs aussi. Parce qu'en généraliser, ils ont peur que ça devienne aussi obligatoire. Alors, on a bien compris que pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais moi, je reprends toujours les termes. Et en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite.
Moi, je regarderais simplement, je vous ai dit, hier, j'étais dans le SNU donc, de l'Oise, à Beauvais, et j'ai donc été en contact avec 155 jeunes volontaires, parce que quand on leur pose la question directement, est-ce que vous êtes tous volontaires, il y en a certains qui vous répondront, non, moi, c'est ma mère qui m'a obligé. Bon, la question que je pose généralement après, et alors, ça fait une semaine et demie que vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est super bien. Bon, bah merci maman alors.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est franchement, honnêtement, moi je pense que vu les, quand on voit l'actualité actuelle, quand on voit ce qui se passe dans nos territoires, quand on voit tout ce que l'on voit et ce que l'on entend sur les radios, sur la télévision, je pense qu'il est de plus en plus nécessaire de faire la cohésion nationale. De plus en plus nécessaire. Avant, alors c'est vrai, je voulais dire que c'est un vieux militaire qui vous parle. Avant, avec le service national, les jeunes des banlieues rencontraient les jeunes des villes. Et ils étaient dans le même uniforme, ils étaient dans la même chambre et ils partageaient la même boue. Et ils étaient soudés. On l'a suspendu, il n'y a plus que ça. Mais il faut trouver quelque chose pour créer ce lien. Créer ce lien pour faire l'unité. On est tous français. Tous français. Et le SNU, je pense que ça peut être une bonne optique. Si vous faites ça sur la JDC, c'est qu'une journée.
C'est qu'une journée, oui.
Ils ne se connaissent pas, ils n'auront rien fait ensemble. Le SNU, il ne faut pas croire que c'est pas un enseignement militaire. Vous faites du sport ensemble. Vous faites des sorties éducatives ensemble. Hier, un groupe, pendant qu'ils étaient avec nous, les autres, ils étaient à Euro Disney. Et l'après-midi, ils ont fait le rocage, vous voyez. Donc c'est de l'éducatif, c'est du culturel, c'est en fin de compte à commencer à apprendre qui est l'autre. Et c'est qu'avec ça qu'à mon avis, on arrivera à construire une société digne de ce nom-là. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que bah, oui, ça serait pas mal que ça soit obligatoire. C'est que 2 semaines dans une vie, hein.
Et mais alors, hors temps scolaire, c'est ce que disent toujours les parents. Je vous cherche, là.
Ah, mais cherchez-moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ne me trouverez pas.
Non, mais je veux dire, c'est vrai que les parents, les syndicats de professeurs, les fédérations de parents d'élèves, ils ont peur, effectivement, que ces 12 jours, exactement, se passent pendant le temps scolaire. Alors, on en reparlera après, parce que je voudrais quand même écouter l'interview de Jade.
Bonjour Jade.
Bonjour.
Donc tu as fait ton SNU en avril 2023, hein, donc oui. Pendant les vacances scolaires.
Exact.
À le spécifier. Et puis, donc tu étais à Angers.
Oui.
Voilà. Quelle représentation tu te faisais du SNU avant d'y aller?
Alors, moi déjà, je l'ai découvert il y a un peu de temps avant d'y aller. Et c'est du coup mon papa qui m'en a parlé et c'est vrai qu'on s'en faisait une image assez service militaire un peu.
Parce qu'il faut dire que ton papa est un ancien militaire.
Oui. Et du coup, on s'en faisait une image assez, assez militaire. Où,
au garde à vous.
Un peu, ouais. Enfin... pas tant que ça, mais vraiment où on était très en contact toujours avec l'armée ou des choses comme ça.
Et après l'avoir fait, est-ce que tu étais quand même assez satisfaite de tes attentes?
Alors, j'étais satisfaite de mon séjour, mais de mes attentes, pas vraiment, parce que c'est pas aussi militaire. On a quand même le matin le lever des couleurs.
Donc la levée du drapeau, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà.
Exactement, et le matin. La Marseillaise, tous ensemble, bien rangés, voilà.
Et le matin, lever de bonheur, non? Au clairon ou pas?
Non, pas au clairon. Enfin, ça dépend de quel tuteur on a, mais on est par dans les couloirs, on dort par maisonnée. Et c'est vrai que c'est le tuteur qui vient nous réveiller le matin. Et après, en fait, ça dépend parce que nous, on pouvait se lever à 7h si on voulait, à 7h20, faire le réveil sportif. Donc le matin, on avait un petit réveil de 20 minutes où on pouvait faire un peu de sport avec le coach sportif. Sinon, après, on pouvait se lever à 7h20, 7h40 pour aller déjeuner. Enfin, à 8h, il fallait que tout le monde soit dans le self. Pour vérifier que tout le monde soit bien sorti de la chambre parce qu'il faisait l'appel.
Oui, il n'y avait pas le droit à un repos supplémentaire, à faire la grasse matinée.
Non, parce qu'à 8h45, il fallait que tout le monde soit sur la place d'armes pour faire le lever des couleurs et chanter la Marseillaise.
D'accord. Et tout ça, ça t'a plu, de chanter la Marseillaise, la levée du drapeau
En fait, je suis porte-drapeau, donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est assez important. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Puis après, ça dure pas longtemps et puis ça permet le matin que tout le monde soit réuni ensemble Et ça permettait du coup à la chef de centre de demander à tout le monde s'ils avaient bien dormi, de savoir comment tout le monde allait, de certifier certains points. Voilà. Donc ça permettait à tout le monde de se regrouper, de papoter un peu ensemble. Et puis, c'était un moment un peu convivial.
Oui, bon enfant, quoi, c'est qu'à te le dire, voilà.
C'est vrai que sur le moment, quand même, quand on fait la levée des couleurs, c'est quand même très solennel.
Oui.
C'est cérémonie, donc il faut que ce soit bien réalisé, tout ça. Mais après, quand la chef de centre parle, c'est vrai que, voilà, parfois, elle est un peu en interaction avec nous, donc... C'est bien.
Et les autres jeunes avec qui tu étais, soit dans la maisonnée, soit lorsqu'il y avait des rencontres ou du travail un petit peu en groupe, qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, de cette levée de drapeau, de chanter la Marseillaise
Il y en a qui avaient la même opinion que moi. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui auraient bien aimé dormir. C'est vrai, mais...
Ou chanter autre chose, peut-être du Rihanna ou...
Oui, je pense, mais... Après, c'est vrai que c'est un moment qu'on appréciait tous, je pense, parce que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un moment assez symbolique, on va dire.
Ok.
Voilà, donc voilà, on voit que Jade était vraiment volontaire. Alors, en 2022, hein, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, il y a eu 32 000 jeunes qui ont participé contre 50 000 attendus. À ce jour, voilà. Toutefois, les phases 1 et 2 pour l'ensemble d'une classe d'âge à l'horizon 2024 ont vocation à devenir peut-être obligatoires. Rien n'est exclu actuellement. 6 départements pilotes ont été choisis, toujours sur le volontariat. Alors, des voix s'élèvent contre ce dispositif qui doit s'effectuer donc durant les vacances scolaires. Mais pour 2024, ce stage de cohésion devrait débuter en mars 2024, sachant que les vacances scolaires s'arrêteront le 6 mars pour la dernière zone, la zone C. Donc là, ça ne sera peut-être pas vraiment pendant les vacances scolaires. Enfin, on va regarder tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des lycées labellisés qui vont s'appeler lycées engagés ou classes engagées pour les classes de CP. Qui vont voir le jour afin d'inclure dans leur projet d'établissement un axe jeunesse et engagement. Pensez-vous que le SNU va permettre de créer un dynamisme de l'engagement, de la motivation chez les jeunes ?
Oui, enfin, moi oui, franchement je le pense. Bon, déjà le SNU, pour revenir rapidement sur ce que vous disiez tout à l'heure, obligatoire ou pas. L'exemple que vous avez donné avec Jeanne, cette jeune fille, très bien sous tout rapport, il n'y a aucun problème. Mais le problème...
Je la connais très très bien, oui.
Oui, mais c'est que je dirais c'est presque une caricature du volontaire.
Ah mais tout à fait, complètement.
C'est-à-dire
que
c'est, oui. Toutes les personnes qui se présentent maintenant, elles ont à peu près
cette vision.
Voilà, cette vision de la nation. Elle est déjà porte-drapeau, elle, mais tous les jeunes pensent, c'est déjà des citoyens en fin de compte.
C'est ça.
Donc ils viennent pour confirmer leur pensée. Et ils repartent généralement, ils sont ravis, ils ont confirmé,
tout à fait.
Je suis dans le bon, c'est bien, tout va bien. C'est pour ça que le rendre obligatoire, peut-être que ça toucherait plus les jeunes qui n'ont pas cette optique-là, qui sont en dehors de la société, qui ne se sentent pas dans cette société, qui pensent qu'elle
société.
Ne l'aime pas ou que eux ne l'aiment pas. Donc peut-être que devenir le rendre obligatoire remettra ces jeunes, dire voilà, tu t'es trompé jusqu'à présent, regarde la société comment elle est, c'est ça. Peut-être que là, on fera changer peut-être la jeunesse de France et ils seront peut-être plus amoureux de leur pays.
Et comment réagir dans un cas si un jeune refuse de chanter la Marseillaise ?
C'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. La bonne réponse de politicien. J'ai jamais vu le cas. Honnêtement, je n'ai jamais eu le cas. J'en ai eu qui se sont mis à rigoler pendant la Marseillaise. Moi, j'ai des poils qui se hérissent. Je vous le dis honnêtement, j'ai des poils qui se hérissent.
Mais est-ce qu'ils connaissent les paroles ?
Oui. Oui, parce qu'ils l'ont tous... Alors, ouais, c'est nu, ils l'ont autour du cou. Hein.
Ah oui.
Ils ont une pancarte. Ils ont leur compagnie, leur maisonnée. On retourne, il y a marqué la Marseillaise, il y a les paroles. On leur permet même, pendant qu'ils chantent, apparemment, de prendre la plaquette pour les lire.
Ah oui,
Donc oui, après, quelqu'un qui ne veut pas, il se met à l'extérieur de la société. Donc, se poser la question, comment faire pour que ce jeune-là puisse réintégrer la société, c'est de l'écoute, c'est apprendre à écouter. Pourquoi ? Quels sont ses griefs ? Essayer de le comprendre. Peut-être de devoir rencontrer des gens qui sont dans la société. Hier, j'avais un de mes camarades gendarmes qui était là. J'ai jamais vu autant de jeunes autour du gendarme. Et ce n'était pas pour un contrôle d'identité. Hein. Ils avaient tous des questions à lui poser. Parce que justement, avec ce qui se passe actuellement, tout ce qui est police, gendarmerie, c'est très mal vu. Là, ils étaient là pour poser des questions, pour essayer de comprendre. C'est ça qui est très important. Le SNU, le rôle du SNU, en fin de compte, c'est de retisser un lien social avec la jeunesse et la société. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que le rendre obligatoire, je pense que ce serait... C'est presque une nécessité de nos jours.
J'aimerais avoir votre opinion, parce que vous avez fait tous votre service militaire, hein, sauf moi, évidemment. Mais,
qu'est-ce que...
Oui, j'étais une planquée, oui. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce SNU? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça peut apporter un dynamisme au niveau de l'engagement chez les jeunes? Qui ne sont pas au départ volontaires pour quoi que ce soit.
Hein. Moi, c'est certain, parce que là où j'étais dans l'armée de l'air. Et j'ai rencontré des gens complètement différents, des gens qui ne savaient pas écrire, des gens qui ne savaient pas lire. J'en ai vu un qui a passé 3 jours assis sur la fenêtre de sa chambre, il ne voulait pas rien faire, ils l'ont laissé 3 jours, il a dit « si tu veux sauter, tu sautes ». Mais voilà, on rencontre des gens complètement différents. Et c'est là qu'on se rend compte que dans la société dans laquelle je vivais, j'étais passé à côté de choses qui m'entouraient, quoi.
Oui, c'est pas la même mixité que l'école, parce que là, c'est du matin au lendemain matin, quoi. C'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jackie, à toi. Mmh.
De toute façon, le but du SNU, moi, je crois que en final, il faut le rendre obligatoire, de toute façon. Parce que si on veut retrouver la même cohésion qu'on avait dans le service militaire avant, c'est l'obligation. Parce que là, ce qu'on voit pour l'instant, c'est quand même des jeunes qui sont déjà dans le sérail, plus ou moins.
Oui, tout à fait.
Donc, si on veut rassembler l'ensemble des jeunes, il faut une obligation.
Oui.
Et moi, je serais même pour, avant ce SNU, de préparer l'arrivée au SNU avant. Même au collège, faire des petites faire des petites interventions en disant, bien avant, comme on disait pour les stages, mm-hmm. à partir de la 5e, préparer à l'arrivée au SNU au fur et à mesure, en faisant des petites interventions, en leur disant, bientôt, dans le temps, vous aurez le SNU et puis vous verrez ce qui se passera, comment ça se passera et autres. Ça, ça sera l'idéal.
C'est en train de se développer, mais on va en parler certainement un peu après, c'est les classes de défense.
Ouais. Oui,
ça commence à se développer, en fin de compte.
Là, je voudrais qu'on écoute la deuxième interview de Jade, si c'est possible, Luc.
Oui, alors tu me disais aussi que lors du SNU, il y avait une partie qui était très scolaire, une autre partie que tu as aimée, c'était ressources jeunes, et l'autre partie qui était plus pour faire l'armée. Connaissance avec l'armée.
Ouais.
Voilà, on va peut-être parler, allez, du scolaire.
Ok, alors c'est vrai qu'au SNU, en fait, du coup, il va y avoir vraiment 3 parties. Et au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qu'on retrouve en fait avec l'école. Il y a beaucoup de sujets qu'en fait on voit tous les jours à l'école. Et du coup, c'est vrai que ça paraît un peu redondant.
Mmh. Oui, tu as eu des débats.
Oui, des débats, par exemple.
Sur quel thème?
Égalité hommes-femmes, mmh. Le cyberharcèlement, l'intégration sociale, et en fait c'est des choses qu'on voit par exemple en EMC, enseignement civique et moral, et du coup c'est des choses qu'on voit et qu'on connaît déjà, et du coup c'est vrai que c'est important d'en parler, mais c'est vrai que comme on en parle déjà souvent à l'école, c'est quelque chose qui est un peu redondant, parce que on a souvent
des intervenants
ouais, qui viennent et qui nous font des choses comme ça.
C'est un petit peu dommage, effectivement. Il aurait peut-être fallu parler d'autres thématiques. Ouais. Il aurait peut-être fallu vous faire choisir certaines thématiques qui auraient été tout aussi intéressantes pour vous. Tu me parlais aussi, donc, je reprends mes petites feuilles et je fais du bruit, des ressources jeunes. Ça, c'était des projets en groupe. Donc, le groupe qu'on retrouve aussi dans les écoles, c'est peut-être pas le même travail demandé.
Alors, c'est vrai que les travails de groupe, on retrouve ça souvent à l'école, mais en fait, c'était pas pareil parce que ça donnait un peu de nouveau au SNU, parce que on était par maisonnée, on devait créer un projet pour le reste du SNU, pour toutes les autres maisonnées.
C'était un projet complètement libre.
Oui, c'est ça. Totalement libre. On avait le choix de faire ce qu'on voulait. Par exemple, ma maisonnée, on a animé la soirée de clôture du SNU. Et il y en a d'autres qu'on fait, par exemple, un Où est Charlie géant.
Mm-hmm.
Et donc, c'est vrai que chaque maisonnée avait vraiment le choix dans leur projet. Et du coup, c'était assez, assez chouette et libre. Et on avait 3-4 séances par semaine avec notre tuteur pendant une heure où on prenait le temps de savoir ce qu'on devait avoir, ce qu'on devait préparer, tout ça. Et donc, Bah, c'était chouette.
Et le tuteur, c'était un encadrant, oui, qui vous suivait pour chaque maisonnée, voilà. Oui. Et c'était quelqu'un de l'armée, c'était...
Non, c'était des personnes qui avaient passé leur BAFA. Mmh, c'est tout. Des jeunes, oui, il y avait autant des...
Qui étaient préparés aussi, oui, vous avez, oui, sans doute été formés, oui, à ça. Et donc, le troisième que tu as trouvé super intéressant, parce que tu ne le connaissais pas et tu as appris plein de choses, oui, c'est sur l'armée. Qu'est-ce que tu as appris exactement
Bah, on a eu plein d'intervenants qui sont venus et ça a été vraiment chouette parce qu'on a eu une après-midi où il y a la gendarmerie qui est venue et qui nous ont fait faire une mise en situation d'une recherche à la personne. Mmh. Et donc c'était vachement intéressant parce que si un jour on se retrouve dans cette situation, du coup maintenant on sait comment réagir. Mmh. On a eu également les pompiers qui sont venus et qui nous ont montré comment ils réagissaient durant un accident de voiture ou un accident de moto. Et c'est super intéressant de les voir en œuvre. Et il y a deux pompiers qui faisaient la manip et un pompier à côté qui nous expliquait chacun des mouvements et qui nous expliquait ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, tout ça. Et c'était très intéressant. Surtout qu'il nous faisait interagir puisque à chaque fois, il y a deux personnes qui, chez les pompiers, jouaient les victimes. Et avec le gendarme, par exemple, j'ai joué la personne à rechercher.
C'est bien être retrouvée, dites donc.
Oui, ils m'ont retrouvée. Et une autre personne jouait un témoin qui m'avait vu passer.
D'accord. Et ça vous a réellement plu.
C'est très intéressant, oui.
Alors après, je suppose aussi que l'armée, c'est peut-être aussi leur rôle de vous dire, bon voilà, vous faites votre service national universel. Est-ce que vous avez peut-être des aptitudes ou même des envies de venir rejoindre l'armée? Et je suppose que dans ce cas-là, ben, ils font un peu le buzz, comme on dit, mmh, et ils vous proposent, ils... peut-être pas proposer, mais ils vous font tout un speech, en fin de compte, sur tous les métiers de l'armée, peut-être les autres services nationaux adaptés ou services nationaux qui existent peut-être aussi.
On ne nous a pas parlé des autres services nationaux. Par contre, c'est vrai que pendant la JDN, donc Journée Défense et Mémoire, qui remplace la JDC durant le séjour.
Alors la JDC, c'est la journée de la citoyenneté, c'est ça.
Justement, on était en contact toute la journée avec l'armée qui nous a justement expliqué du coup tous les métiers qu'on pouvait trouver dans l'armée.
Et là, c'est très intéressant parce que dans l'armée, ça c'est à signaler, l'égalité entre hommes et femmes est effectivement très bien faite, ouais, que ce soit au niveau salaire ou au niveau de la profession. On mettra aussi bien une adjudante femme qu'un adjudant homme, colonel femme ou colonel homme. Donc c'est très très bien respecté. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Mais c'est vrai que c'était intéressant cette journée défense et mémoire parce qu'on a fait beaucoup de choses avec l'armée qui nous a expliqué un peu tous les métiers qu'on pouvait trouver dans les différentes armées, les trois différentes armées. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de les entendre parler. Et
c'est vrai
qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça donne envie, du coup, ce service national.
Oui, bien sûr.
Parce qu'à la fin, par exemple, du séjour, on a un forum qui nous explique un peu là où on peut aller faire notre deuxième phase.
Alors, la deuxième phase, on est d'accord, c'est la mission d'intérêt général.
Oui, de 84 heures. Minimum, oui. Et du coup, on a même à ce forum l'armée qui vient nous proposer de nous engager. Et c'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes.
Il y en avait beaucoup qui étaient intéressés de jeunes, justement, pour rejoindre l'armée.
Beaucoup, oui.
C'était quelle armée qui était les plus intéressantes pour eux? La marine,
l'armée de l'air.
L'armée de terre,
oui. Et l'armée de l'air aussi.
L'armée de l'air, beaucoup demandé. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, toi, tu me disais que tu veux essayer de rejoindre, de faire du bénévolat, c'est ça?
Oui.
Au sein de... Des pompiers, c'est ça.
Déjà du bénévolat au sein d'associations Artouille et compagnie.
Mmh. Mais c'est complètement différent. C'est voilà, ça c'est plus différent. Culturel.
Je suis
voilà.
également bénévole en tant que porte-drapeau chez les anciens combattants à l'UMRAC. Et j'aimerais m'engager en tant que pompier volontaire. Donc,
Et l'armée, ça te tente? Mais je pense pas. Hein. C'est pas ce qui...
Ah, alors, je suis baignée dans l'armée depuis que je suis petite avec mon papa.
Voilà.
C'est vrai que j'y ai longuement réfléchi, mais
Tu vois,
c'est plus du côté des pompiers et j'ai un métier qui m'intéresse beaucoup pour lequel je vais étudier. Après, l'armée...
Tu vois le pour et le contre, oui. Hein, évidemment. Hein, tu vois le positif, le négatif. D'ailleurs, ton papa est toujours... Alors, attention. On en a parlé tout à l'heure, donc on va en faire profiter les auditeurs et auditrices. Est-ce que tu es pour un SNU volontaire ou obligatoire?
Volontaire.
Pourquoi?
Parce que si c'est à l'ESNU, c'est le service national universel. Et on l'a mis volontaire dès le départ pour essayer de voir les jeunes qui étaient volontaires et qui aimeraient s'engager. Et si on le mettait obligatoire, il y aurait plus de vision sur le volontariat. Et je pense que la deuxième phrase serait mal faite et sûrement pas aboutie.
Pas bien reçue non plus par les parents.
Oui, et les jeunes.
Et les jeunes aussi.
S'ils ne veulent pas s'engager déjà pour faire le SNU, je pense qu'ils ne s'engageront pas non plus dans des associations. Et le volontariat, c'est la base du service.
Du service et de la motivation surtout. Oui. Voilà. Merci Jade.
De rien.
Voilà, alors donc ça c'était Jade qui a donc fait son SNU. Alors je voyais des têtes qui faisaient non, d'autres oui. Donc on va faire un petit débat. Je voulais juste signaler, après on arrête avec le SNU, un rapport du Sénat.
La pause.
Juste deux lignes. Un rapport du Sénat, comme le disait tout à l'heure Philippe, publié depuis mars, recommandait de sursoir à la généralisation du SNU au regard des incertitudes du projet, notamment en termes de coûts, probablement supérieurs à 2 milliards d'euros par an. Interrogée sur la généralisation de ce dispositif, la secrétaire d'État a expliqué que le débat est ouvert. La question de l'obligation n'est pas un tabou, mais notre objectif est de créer de l'engouement, pas de la coercition. Et on fait donc la pause.
Dérange pas mon cœur, y a trop de douleur. Impossible de rire, c'est la panique. Moi je pense que le monde peut pas donner. Le seul à croire en toi. Alors je tire ma chance, je relativise. Je frôle l'instant comme une brûlure. Tu m'échapperas pas, je te pointe du doigt. J'ai des larmes qui coulent, j'en ai trop dit. J'en ai trop dit. J'en ai trop dit. En état d'urgence, je ferme les yeux. Et il faut que je lutte pour ta liberté. Si on t'applaudit pour tes idées, j'aimerais vous entendre me dire que vous m'aimez. J'en ai trop dit. Avec l'union. Si je t'accuse, prouvez-moi que vous êtes avec moi. Nos vies sacrifiées, nos terres brûlées, je veux l'égalité, la même que vous avez. Soyez tous avec moi, citoyens du monde, la seule réalité.
réalité. On a tous les mêmes droits. Pas toi. Au bout d'une vie, laisse-moi pas tomber, on meurt pour rien. En état de guerre, on tue pour survivre. Même si c'est mon frère, on pleure sans pitié. Je ramasse ma honte, j'en fais un tas. Je brûle sur bûcher, pardonnez-moi. Oh, dérange pas mon cœur, y'a trop de douleur. Impossible de rire, c'est la panique. Je veux l'égalité, la même que vous avez. Soyez tous avec moi, citoyens du monde, la seule réalité. On a tous les mêmes droits, j'y crois.
Nous venons d'écouter Alexandre Cherdange, J'en ai trop dit, tiré de son nouvel album Résistance. Notre thème du jour, service national et les missions de l'armée auprès des jeunes. Pour cela, nous recevons Philippe, adjudant dans l'armée de terre. Nous allons passer la parole à Jackie pour un petit billet d'humeur.
Oui, pour un petit billet d'humeur. Alors, concernant justement tous ces dispositifs qui, moi, m'amènent que du positif, enfin, qui peuvent amener que du positif. Mais j'ai des petits doutes concernant tous ces dispositifs, le SNU, SMV, Journée de défense citoyenne. Est-ce qu'à un moment, tous ces dispositifs qu'on a mis en place, ces empilages de dispositifs, comme on voit malheureusement beaucoup dans le public, hein, ce que nos politiques mettent en place, est-ce que ça ne sème pas, peut pas semer des doutes au niveau du but, au niveau de nos jeunes ? Je l'explique en disant, c'est vrai qu'on disait obligatoire, pas obligatoire. Est-ce qu'il y a aussi des doutes par rapport de ces jeunes par rapport à ce qui est ce que nous adultes leur faisons passer comme commentaire justement sur les doutes au niveau journée de GDC et SNU qui va arriver obligatoire, pas obligatoire, et aussi le doute aussi de nos politiques, parce que c'est eux qui sont à la tête aussi de ça, de savoir est-ce qu'ils vont l'intégrer ou pas l'intégrer. Il y a toujours ces incohérences et moi ce qui me fait, enfin dans le public, hein, c'est ce manque de réactivité. Et moi, je dis toujours, hein, même dans l'associatif, moi j'aime bien qu'on me dise oui ou non, mais qu'on ne soit pas dans dire peut-être ou pas. Et là, ce manque par rapport à ces jeunes, c'est qu'on a toujours on leur émet toujours du doute.
Non, on est complètement dans le flou encore.
C'est
compliqué, effectivement.
Il faut de temps en temps leur dire oui ou non et leur mettre les choses en place en disant ça sera soit obligatoire, soit pas obligatoire. Moi, je trouve que le travail de nous adultes et des politiques en général, leur amener un discours qui soit cohérent.
Tout à fait.
D'accord.
Je voulais revenir, moi, sur la deuxième interview de Jade. Quand elle parle de s'engager, attention, c'est pas s'engager dans l'armée, mais s'engager dans la vie, dans le monde associatif.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais pas s'engager dans l'armée. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de quiproquo. C'était peut-être mal expliqué dans l'interview. Mm-hmm. Voilà. Alors donc, on va quitter le SNU et on va se diriger vers le SMV, le service militaire volontaire, qui est ouvert à tous les jeunes Français de 18 à 26 ans pour une durée variant d'une à cinq années. Le but étant d'apprendre... Non, on me fait signe que non encore, mais moi, j'ai été voir sur Internet. Et on raconte des bêtises. Hein.
Internet, oui, si vous prenez tout ce que vous trouvez sur Internet pour argent comptant, malheureusement, vous allez tomber de haut.
Le but étant d'apprendre un métier aux jeunes sans emploi ou d'acquérir une expérience professionnelle. Tout est pris en charge. Le logement, la nourriture, la c'est OK. Avec un salaire moyen brut de 750 euros par mois. On me fait signe que non. Alors, eh bien, on va voir tout ça. Quels sont les documents demandés aux volontaires, hein, donc pour ce service militaire? Quelle est la durée du SMV et quels sont les cours dispensés dans les centres de formation?
Eh bien, je vais répondre à la question. La durée du SMV, ce n'est pas de 1 à 5 ans, c'est de 6 à 12 mois.
Ah, voilà.
Voilà. Donc, c'est un premier contrat de 6 mois, renouvelable une fois. La rémunération, c'est d'environ 300 euros. C'est un tout petit peu plus que 300. Voilà. Parce que tout le reste est pris en charge,
brut,
comme vous l'avez dit.
Voilà.
Non, c'est net. Hein. C'est net. Ce qu'ils vont toucher.
Ah, ben, hein. D'accord, oui. Voilà. Ce qu'ils vont toucher. Ouais, moi, j'étais à brut. Donc,
okay. C'est une allocation, en fin de compte. Hein. C'est pas, faut pas prendre ça comme un contrat de travail. Hein. C'est apprentissage qu'ils vont faire. Oui. Le SMV, alors, déjà, le SMV a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a voulu utiliser quelque chose qu'on avait créé en 1961 dans les territoires d'outre-mer, qui s'appelle le SMA, le service militaire adapté. Excusez-moi. Et donc, c'est l'expérience qu'on a acquise dans les territoires d'outre-mer. On a dit, bah, on va l'amener en métropole, parce que les jeunes métropolitains, bah, ils commencent à avoir les mêmes problèmes que dans les territoires d'outre-mer. Donc, le SMV, c'est quoi, en fin de compte? C'est une formation professionnelle, civile, mais avec un encadrement militaire. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux jeunes à avoir une profession civile, mais on va leur donner une rigidité militaire, c'est-à-dire un encadrement qui va leur permettre de se rendre apte à l'employabilité, je vais dire. C'est se lever le matin, à l'heure, pas une demi-heure en retard pour arriver au travail en retard. Mm-hmm. C'est passer par la case toilette, parce que ça aussi, des fois, il faut réapprendre. C'est apprendre le respect vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'employeur. C'est avoir un comportement adapté, justement, à satisfaire le futur employeur. Ça, c'est ce qui est fait en SMV. Et il y a un tout petit parcours, je dirais, militaire, parce qu'effectivement, ils sont en uniforme. Effectivement, ils vont avoir la montée des couleurs, mais ça, tout citoyen devrait faire la montée des couleurs. Ils vont chanter la Marseillaise, parce que tout citoyen français devrait, à mon sens, savoir connaître les paroles de la Marseillaise, au moins les deux premiers couplets. Et ensuite, ils vont marcher au pas. Donc, effectivement, il va y avoir une petite formation militaire. Mais c'est pas, je dirais, la finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est de permettre à des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi de trouver un emploi. Alors, comment ça se fait au SMV? Ils ont tous des partenaires, en fin de compte. Je vais vous donner... Je prends mes notes, hein, moi aussi. Hein. Tout à fait. Il y a 7 centres SMV en France. Tous ces centres, en fin de compte, ont des partenaires avec des employeurs locaux. Je vais prendre un exemple. Il y a un centre, c'est qui est dans le... à Brétigny-sur-Orge. Son partenaire le plus gros, c'est Rungis.
Ah oui, c'est à côté.
C'est Mickey Mouse, Euro Disney, et la SNCF. Donc on va former ces jeunes pour être employables dans ces centres-là. Alors il faut savoir qu'en chiffres, à peu près, ça fait 7300 jeunes qui sont formés. Ça donne à peu près, malheureusement, que 25% de féminisation. Mais ça donne surtout 86% d'insertion professionnelle.
C'est bien.
Donc 86% des jeunes qui se présentent au SMB sortent en emploi. Le reste, c'est sûrement en formation qualifiante, où malheureusement, vous avez aussi des sans-solutions, mais là, il y aura peut-être d'autres dispositifs derrière qui pourront les reprendre en considération et pouvoir les aider. Donc voilà. Alors pourquoi on a créé le SMB en métropole? Parce qu'on avait l'expérience du SMA en Outre-mer. C'est exactement la même chose, mais spécialisé pour l'Outre-mer, les problématiques de l'Outre-mer.
De l'Outre-mer, oui, qui ne sont pas les mêmes, effectivement.
Tout à fait. Il y avait beaucoup plus de problèmes au niveau de la compréhension de la langue française, et ainsi de suite. Donc ça rentrait en ligne de compte, et on formait les jeunes au SMA, on les formait pour être employables sur zone, c'est-à-dire qu'on leur trouve des employeurs sur le théâtre. Parce que souvent, quand vous êtes en Outre-mer, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà parti dans les territoires d'Outre-mer, c'est magnifique, c'est beau, c'est carte postale, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois.
C'est ça.
Donc, ils sont souvent obligés de partir en métropole pour trouver de l'emploi. Là, on arrive à leur trouver des employeurs sur place, ce qui ne délocalise pas la population et qui, des fois, peut être pris comme un échec en soi. Obligé de partir de ses racines, ça peut faire mal. Donc, voilà. Donc, on a pris cet exemple-là et on avait créé quelque chose d'autre qu'on parlera déjà après, qui a été créé par Mme Alioumari quand elle était ministre de la Défense. Elle a créé donc les EPID. Mais elle trouvait qu'il y avait pas le caractère militaire des EHPAD n'était pas assez ancré. Donc on a créé par la suite le SMV qui lui est plus militaire. Plus il y a plus militaire. De rigidité militaire dedans. Voilà. Je pense que c'est une belle chose aussi.
D'accord. Et donc là, c'est que 6 à 12 mois, en fin de compte.
Tout à fait. Tout à fait. En 12 mois, les jeunes... Alors déjà, il faut savoir que les jeunes n'auront pas qu'une formation donc, professionnelle, hein, parce qu'on va les accompagner aussi dans l'obtention du permis de conduire.
D'accord.
Qui est gratuit.
Ah oui. Ça les pousse peut-être à venir aussi.
Mais il faut savoir que la problématique de jeunes à l'emploi actuellement, c'est la mobilité.
La mobilité, tout à fait.
Le permis de conduire, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Et quand les parents n'ont pas les moyens, que le jeune n'a pas les moyens, s'il n'est pas mobile, c'est très problématique pour trouver un emploi. Que ce soit le véhicule automobile, soit pour certains, le scooter. Donc voilà, c'est les accompagner aussi vers une employabilité.
D'accord. Et il y a certains jeunes qui restent quand même après ou ils quittent
Alors, il faut savoir que le SMV recrute aussi dans ses rangs des jeunes qui y sont passés, qui sont qualifiés et ils sont aides. En fin de compte, ils vont aider à la qualification des prochains qui vont arriver. Il y a à peu près 1400 jeunes qui sont inscrits comme ça dans les SMV, qui sont recrutés tous les ans pour pouvoir donner l'information à leurs camarades qui arrivent.
Oui. D'accord. On va peut-être un petit peu accélérer parce que je vois le temps passe. Je voulais poser la question aussi. Il existe des classes de défense. Deux collèges de Moulins-les-Metz ont signé une convention pour des collégiens de 3e et 4e. Je pense que c'est intéressant aussi d'en parler. Ils seront donc parrainés, accompagnés par une unité militaire. Pouvez-vous nous expliquer dans ce cas précis quelle est la mission de l'armée auprès de ces jeunes?
C'est toujours le même en fin de compte. C'est de faire prendre conscience à la jeunesse qu'ils appartiennent à un tout qui s'appelle la nation. Alors cette initiative, elle ne vient pas de l'armée, hein, mais elle vient, des enseignants qui ont demandé justement à ce que les armées prennent comme leur classe comme parrain. Alors actuellement, je dirais qu'il y a 475 classes de défense, donc ça fait quand même quelque chose d'assez énorme. Ça concerne presque 12 000 élèves, 11 875 au dernier chiffre. Et il y a plus de 200 unités de l'armée, des armées, qui se sont déclarés volontaires pour être parrain d'une école, d'une classe. C'est pour créer le lien, pour retisser le lien armée-nation. Les armées sont constituées de quoi ? De citoyens. Hein. On est des militaires, certes, mais on est surtout et avant tout des citoyens. On est des hommes, des femmes qui votons, on est des hommes, des femmes qui vivons dans la société. Et on est souvent mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous connaît pas. Donc c'est de recréer ce lien entre la jeunesse et la nation.
Et quel est le ressenti des jeunes de l'armée auprès des jeunes? Est-ce qu'il y a...
Actuellement, pour avoir discuté avec les jeunes du SNU hier, ou discuté dans les JDC...
Moi, je trouve que ça passe bien.
Oui. Ça passe bien.
Oui. Ouais. Oui, non, on a pas de... Je dirais qu'en fait, on n'est pas là pour le SNU, le SMV ou le SMA, on n'est pas là. On est là pour bien leur dire que c'est possible, que tout le monde, s'il a envie et qu'il a l'amour de ça, peut rentrer dans les forces armées. Mais au niveau du recrutement, on a 170 000 candidats à l'année.
À l'année, tout à fait. Pourquoi avoir appelé ça classe de défense? Ils auraient peut-être pu appeler autrement.
Oui, certainement.
Parce que c'est un peu bizarre.
Parce que ça fait classe éducation nationale, défense, armée. Ça fait les deux côte à côte, vous voyez. Mais je vous dis, l'initiative n'est pas du ministère de la Défense, de l'armée.
C'est l'éducation nationale.
C'est des professeurs, mais je pense qu'ils ont dû faire remonter ça au ministère. C'est des professeurs, des instituteurs qui ont demandé un partenariat. Je pense qu'ils auraient pu le faire avec des ténors de l'industrie, pense. Mais ils voulaient faire retisser justement. Enfin, moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'école, mais quand je vois ce qui se passe dans la rue, je pense que le lien nation. Et les jeunes, il faut vraiment le recréer, quoi.
Oui, je trouve pas ça très joli, classe de défense. Bon, on va leur dire.
Au moins, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Voilà, c'est ça. Alors, on parle très peu de la réserve opérationnelle dans les médias. Hein, ces personnes de la réserve opérationnelle qui sont souvent en activité professionnelle. Donc, il est très difficile d'allier les deux occupations. C'est compliqué. Je le vois autour de moi. Quel est le rôle principal des réservistes?
Le rôle pas simple, de quels réservistes? Parce que de quels réserves on parle? Il y en a plusieurs.
Alors, il y a citoyennes, vous m'avez dit.
Voilà. Les réserves citoyennes.
Qui sont souvent d'ailleurs pas rémunérées.
Ah, mais pas souvent, ils ne sont pas rémunérés, c'est du bénévolat.
Voilà, c'est ça. Donc, et c'est dommage parce qu'il y a quand même un manque de reconnaissance. Et nous avons beaucoup de réservistes.
Là, je vais me faire taper par mon commandement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de reconnaissance, on n'en parle pas. Les médias n'en parlent pas non plus.
Non.
Voilà. Bah, et ils font un boulot de dingue.
Ah oui, ça bah, du reste, l'action que je vais mener au mois de septembre avec la marche des tirailleurs, qui aura lieu dans l'Oise, c'est un officier de réserve citoyenne. C'est un bénévole. Il fait ça parce qu'il a envie de le faire.
Parlez-en tout de suite pour septembre. Alors, c'est quoi cette marche des tirailleurs?
C'est la commémoration des combats qui ont eu lieu en 1940 et où, malheureusement, nos camarades tirailleurs sénégalais ont été lâchement exécutés après avoir combattu vaillamment. Ils ont été exécutés quand ils se sont fait faire prisonniers par les troupes allemandes. Mmh. Donc, c'est au Bois des Reims. C'est une semaine qu'on va passer donc, sous tente en ration de combat. Pour nos jeunes, ça va leur faire un grand choc thermique. mais ils sont tous volontaires. Ils sont tous volontaires pour venir. Ça va être une instruction militaire sur une semaine. Donc,
C'est du camping, quoi.
Ah bah, si vous trouvez un camping avec un toilette pour 70 personnes, faites-moi signe. J'espère que le prix n'est pas trop élevé parce que
bah, toujours est-il, ça va... il y a l'extérieur quand même.
Ah bah après, il y a des arbres. On va mettre de l'engrais. Toujours est-il que c'est quelque chose qu'on tient à faire, un, pour montrer à nos jeunes, parce que tous les jeunes qui seront là, c'est tous des projets en uniforme, police, gendarmerie, marine nationale, armée de l'air, armée de terre. Et ça sera un aguerrissement, en fin de compte, pour leur montrer ce que c'est. C'est pas toujours la caserne, des fois c'est le terrain, c'est la pluie, c'est la neige en septembre, pas vraiment, mais la pluie peut-être. Et ces démarches, et c'est vraiment de l'instruction militaire. Donc il y a ça sur une petite semaine. Le samedi, il y a un rallye, un petit rallye, c'est-à-dire qu'ils vont faire une petite marche avec des ateliers, différents ateliers de ce qu'ils auront vu durant la semaine. Et le dimanche, c'est consacré exclusivement aux commémorations dans tous les petits villages aux alentours, pour justement rendre hommage à ces personnes qui ont été lâchement assassinées.
D'accord, c'est public, le dimanche, non?
Bah, c'est de bonne heure, hein, donc...
Ça dépend, donnez l'heure.
La première cérémonie, c'est à 8h, c'est au Bois des Reines.
Voilà. D'accord, ok. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, on était sur nos réservistes, voilà. Oui. Donc, cette réserve citoyenne peu reconnue, et donc, il y a la réserve de défense, c'est ça?
Oui.
C'est comme ça qu'on appelle?
Pour clore sur la réserve citoyenne, en fin de compte, c'est à peu près 3900 hommes. Hommes et femmes, bien entendu. Hein. Quand je dis hommes, c'est générique. Alors, ça fait 3900 réservistes. Eux, c'est vraiment des volontaires qui se mettent à disposition des armées ou de leurs entreprises, parce qu'en fin de compte, ils ont aussi ils sont professionnels, donc ils travaillent dans des entreprises. Et c'est pour promouvoir le devoir des mémoires ou les actions des forces armées au sein de leur entreprise. Je dirais que c'est les premiers représentants des futurs personnels qui viendront s'engager dans la réserve opérationnelle. Alors maintenant, pour passer sur la réserve opérationnelle, alors c'est un peu plus compliqué. La réserve opérationnelle, il y a deux réserves. En fin de compte, vous avez la réserve, je dirais, première, celle où c'est des jeunes ou des moins jeunes qui décident de signer un contrat d'engagement dans la réserve. Ça représente à peu près 39 000 hommes. Alors, ça fait déjà quand même assez conséquent. Eux, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés au même type qu'un militaire d'active. C'est-à-dire qu'ils auront la même paye, le même solde, au prorata du nombre de jours qu'ils vont effectuer. Ensuite, vous avez la deuxième réserve opérationnelle qui est constituée par les anciens militaires d'actifs qui, en fin de compte, ont quitté le service actif. Ils sont d'office mis en situation de réserve pendant 5 ans. Eux, on ne les touche pas. Les 60 000, là, on les garde en réserve, c'est le cas de le dire. Et si jamais... le contexte géopolitique venait à faire que la France ait subitement besoin de beaucoup d'hommes. On fera donc rentrer le Parlement en ligne de compte et ils feront un décret. Et là, les 60 000 hommes sont rappelables.
D'accord. Et ils viennent de toutes les armées, en fin de compte.
Ah, ces 60 000 hommes, oui.
Ah, ouais. C'est ça.
Les 39 000 qui s'engagent, vous avez tout profil. Vous avez énormément d'étudiants. Moi, j'avais recruté une jeune fille en réserve opérationnelle et était en études de médecine. Mmh. En fin de compte, c'était une manière pour elle de rendre service à la nation, quoi, mais aussi d'arrondir ses fins de mois pour ses études de médecine. Quoi. Vous avez beaucoup de professeurs de l'éducation nationale. Eh oui, on ne croirait pas, mais si, il y a énormément de personnels de l'éducation nationale qui sont réservistes, hein, et citoyennes et opérationnelles. Mais vous avez de tous. C'est, en fin de compte, c'est une représentation, je dirais, générale de la société.
De la société, voilà. D'accord.
Et eux sont rémunérés, donc il n'y a pas de souci. Alors, quand on dit, est-ce que c'est difficile d'allier vie professionnelle deux, alors, il faut savoir qu'il y a une loi. La loi, en fin de compte, stipule que les 5 premiers jours de réserve opérationnelle, votre employeur ne peut pas s'y opposer. Ensuite, tous les autres jours, il faut l'accord préalable de l'employeur pour pouvoir partir en réserve opérationnelle. Ensuite, vous ne pouvez pas excéder 90 jours de réserve par an, sauf sur dérogation où vous pouvez aller jusqu'à 120 jours. Mais là, si vous faites 120 jours de réserve dans l'année, ça veut dire que vous n'avez pas de profession autre. 120 jours, c'est énorme. Mais c'est vraiment des cas particuliers, c'est souvent pour partir en opération extérieure. Parce que le réserviste peut très bien partir à l'étranger.
À l'étranger.
Tout à fait.
Alors, vous êtes aussi formateur à l'EPIDE dans l'Aisne. Alors, nous avons fait une émission sur l'EPIDE de Compiègne à l'époque, en juin 2016. Voilà. Donc, EPIDE est un établissement pour l'insertion dans l'emploi, anciennement appelé établissement public d'insertion de la Défense, créé en 2005 par Michel Alliot-Marie et Jean-Louis Borloo, qui étaient respectivement ministre de la Défense et ministre du Travail et de la Cohésion sociale.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur le public visé? Quelles sont les conditions pour rentrer dans ces établissements, et un contrat lit-il, je suppose, oui, le jeune et l'établissement concerné.
Alors, pour commencer, l'EPIDE, effectivement, a été créé donc, par Mme Alliot-Marie, vous l'avez dit. Donc c'est vrai qu'avant, c'était de la défense, c'était avec surtout des anciens militaires qui faisaient l'encadrement. Anciens militaires, c'est-à-dire qu'ils étaient en situation, ils n'étaient plus en activité, ils étaient embauchés dans les EPIDE. Bien. L'EPIDE, les personnes qui sont, qu'on va rechercher en fin de compte, c'est des jeunes entre 17 et 25 ans. C'est des jeunes qui sont le plus éloignés de l'employabilité. Alors, ça vient de changer parce qu'en fin de compte, avant, on ne prenait les jeunes sans diplôme ou alors des diplômes inférieurs au bac. Ça a changé. Ça a changé actuellement. On accepte encore dans les EPIDE, maintenant, actuellement, on accepte des jeunes avec le bac. Mais il faut qu'ils soient le plus loin de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils aient passé au minimum un an au chômage depuis l'obtention du bac. Je pense que, peut-être, mais ça ça n'engage que moi, ça ira crescendo, parce que même des jeunes avec des bacs, c'est très compliqué de trouver un emploi. Il faut savoir qu'il faut être de nationalité française, ou pas. Parce qu'on accueille actuellement des 6 personnes en situation migrante. Il y a encore un encadrement pour ces personnes-là. Il faut qu'ils soient en situation régulière et il faut qu'ils soient sur le territoire depuis plus d'un an.
D'accord.
Voilà. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est que les conditions.
Il faut quand même dire aussi qu'il y a certains migrants qui arrivent en France et qui ont le bac ou qui ont des diplômes.
Oui. Encore faut-il que le diplôme soit reconnu par l'État français.
Par l'État français, voilà. Tout à fait.
Mais ce qu'on va chercher, enfin, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est que la personne qui doit normalement être à l'EPIDE soit en règle avec la JDC, ou soit doit la passer dans les mois qui vont suivre. En fin de compte, l'EPIDE, c'est soit on va aider le jeune dans tous les caractères de la vie pour arriver à l'employabilité. Mais ce qui va être nécessaire, c'est on va essayer de lui trouver soit une formation qualifiante ou diplômante ou carrément un emploi. Voilà, le but final, c'est ça. C'est de mettre les jeunes à l'emploi ou à une forte employabilité. Donc pour ça, on a des partenaires, on a énormément de partenaires qui sont issus, je dirais, du tissu professionnel local. Dans les Hauts-de-France, vous avez 4 centres EPIDE, hein, déjà. Première chose, vous avez Marny-les-Compiègne, vous avez Doullens, vous avez Cambrai et vous avez Saint-Quentin. On est la région avec le plus gros nombre de centres EPIDE.
Alors par exemple, quels sont les partenaires à Saint-Quentin, par exemple?
Tout le tissu industriel. On a Ouch, c'est de la logistique. On a, alors je ne connais plus le nom de l'entreprise, mais c'est de la confection, en fin de compte, d'emballage de parfums. On a MBK, par contre, ça tout le monde connaît. On a plein de sociétés comme ça, mais on a des partenaires aussi professionnels, mais on a aussi des partenaires éducatifs.
Alors les partenaires professionnels sont liés à l'EPIDE par un contrat ou pas du tout ou ça se fait naturellement?
Non, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de contrat. Ils ne sont pas tenus, mais ils s'engagent. Eux, en fin de compte, ça les intéresse qu'ils aient une personne arrivante qui a été, je dirais, j'aime pas trop le terme, mais je vais le dire, formatée à l'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lève, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'heure, qui sait respecter sa hiérarchie,
qui a déjà des règles de base.
Voilà.
c'est ça.
Alors là, je vais me faire des ennemis. Ben, disons que qui ait compris ce que les parents auraient dû faire.
Aussi.
Je peux vous dire que des fois, ça nous pique les yeux. C'est compliqué. Après, je comprends que des fois, des parents soient débordés. Je peux le comprendre.
Et puis, il y a des enfants, il faut le dire aussi, qui ne sont pas faciles.
Oui.
Aussi.
Ouais, on est bien d'accord. Mais un enfant pas facile avec des parents bien câblés, généralement, ça devient un agneau.
Oui.
Mais bon, c'est pas grave, on y arrive. Hein.
C'est vrai que c'est... Non, mais c'est pas pour défendre des parents, mais parfois c'est vrai que c'est très très compliqué.
Oui, il y a aussi des situations qui sont complexes.
C'est complexe, c'est vrai.
Ouais, quand je vois certains jeunes, au premier abord, on a envie de le calmer. Et au deuxième abord, on se dit, le pauvre. Parce qu'on apprend au fur et à mesure.
Au fur et à mesure, ce qu'il a vécu,
voilà.
C'est ça.
Et c'est, on a des, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais si, je pense que oui, la PJJ, l'AME. On a des jeunes qui sont gérés par ce genre de structure. Donc, c'est des fois très, très lourd. Et on a des fois, on est vraiment très heureux de voir qu'on a des résultats qui sont très intéressants.
Très intéressants, très positifs, c'est vrai. Oui.
C'est clair. Mais voilà. Donc, c'est au départ, en fin de compte, ils sont là pour l'insertion. Alors, on a des cours aussi. On a aussi des cours de rattrapage sur toutes les notions de base, de français, les mathématiques, voilà, et tout ça, qui sont faites généralement par des anciens professeurs de l'éducation nationale.
D'accord, oui.
Mmh. Voilà. On a aussi le permis de conduire. On développe la mobilité. En fin de compte, on est là pour enlever tous les freins qu'ils avaient pour être employables.
Pour être employables, d'accord. Voilà.
Et des freins, il y en a une multitude. Mmh. Donc c'est pour ça que l'EPID, en fin de compte, est un établissement qui très utile. Très utile. C'est un établissement parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui font ça. Mais on a la particularité, c'est de faire un parcours individualisé dans une collectivité. Mmh. Alors c'est un peu dur à comprendre. On est un collectif, mais tous les parcours sont individualisés.
Comment vous faites pour qu'il y ait un parcours individualisé. Il y a un tuteur pour chaque jeune ou
non. Alors, en fin de compte, on appelle ça des sections. Dans une section, vous avez une équipe encadrante 24 heures sur 24 avec eux, de 5 personnes. Vous avez une CIP, une chargée d'insertion professionnelle, qui, elle, son rôle, c'est la coordinatrice d'équipe, en fin de compte, qui est là pour... Le but final, c'est l'insertion. Donc, c'est elle qui va gérer un peu toute l'équipe. Mais pour avoir une bonne insertion, pour qu'un jeune soit vraiment inséré, il faut travailler en amont plein de choses. Donc il faut travailler déjà tout ce qui est la vie au quotidien, ça c'est les moniteurs, c'est mon rôle, c'est en charge le réveil, l'hygiène, et ainsi de suite. Ensuite vous avez enlever les freins, je dirais, de l'éducation générale, donc ça c'est le FEG, formateur en éducation générale, c'est lui le professeur, c'est lui qui va voir le niveau de chacun où
voilà,
ils en sont.
Voilà, les difficultés,
voilà,
etc.
Et enlever ces difficultés ou apprendre à progresser dans les difficultés. Ensuite vous avez deux chargés de... Parcours citoyen, c'est ce qu'on appelle les CEC. Eux, c'est plus ce qu'on fait au SMV, ce qu'on fait au SNU, c'est la citoyenneté.
Savoir-vivre au quotidien.
Voilà. Non, c'est pas savoir-vivre
pas
au quotidien, c'est savoir-vivre avec les autres.
Avec les autres aussi, oui.
C'est surtout avec les autres, c'est vivre dans la société française.
Dans le respect des
voilà,
autres.
Tout à fait. Et après, vous avez ce qu'on appelle tous les formateurs particuliers, donc le permis de conduire. On a un formateur auto-école, on a un informaticien qui va les former sur la pratique d'informatique, la manipulation des ordinateurs. Ensuite, on a plein de choses comme ça, pour fin de compte.
Mais vous êtes en relation avec les missions locales ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les missions locales, des fois, quand elles sont en difficulté, elles nous envoient certains jeunes, ou inversement. Des fois, nous sommes en difficulté, donc on envoie certains jeunes. Après, vous avez les professionnels de l'assistanat qui passent de structure à structure. Mais là, je pense qu'on ne pourra jamais rien faire, quoi. Malheureusement. Mais on ne baisse pas les bras, on essaye quand même.
Alors justement, moi, j'ai une question à vous poser sur ces jeunes qui se cherchent, qui n'ont plus confiance en eux, qui parfois ne croient plus en rien, ni à la République, ni à la démocratie, qui acceptent d'être admis dans un EHPAD où des militaires professionnels font un discours souvent à l'encontre de leur idéologie. Et comment on va les adapter à cet établissement ? Comment présentez-vous votre métier à ces jeunes ? Comment les initier aux pratiques militaires pour une insertion professionnelle réussie ?
Pratique militaire.
Pratique militaire, façon de parler, c'est-à-dire très carré, voilà. C'est pas évident de parler aux jeunes qui n'ont plus envie de rien, qui en fin de compte ont une idéologie à l'encontre de la démocratie et de la République. On fait comment ?
Eh bien justement, ça va vous paraître un peu bizarre, mais vous savez ce que nous disent certains jeunes quand ils viennent à l'EPID, déjà, c'est présenté comme un établissement d'inspiration militaire. C'est pour ça qu'il y a le SMV à côté qui, lui, est beaucoup plus militaire, parce qu'ils seront en uniforme camouflé, eux. Nous, c'est une inspiration. C'est-à-dire que la chose qu'on a, gardée de cette inspiration militaire, la montée des couleurs, mais je vous le dis, pour moi, c'est pas militaire, ça devrait être national. Hein, tout le monde devrait regarder le fier de son drapeau monter. On a gardé un uniforme, mais il n'y a pas que les militaires qui sont en uniforme. Les pompiers sont en uniforme. Une infirmière, quand elle est au travail, elle a un uniforme. Donc, voilà. C'est marcher au pas pour aller au rassemblement. C'est de marcher au pas pour aller... Ben, à la rigueur, je dirais que c'est plus que ça qui reste militaire. Le reste, c'est vraiment du social. C'est vraiment, en fin de compte, de la vie ensemble, quoi. Mmh. C'est quelque chose que les jeunes auraient dû apprendre déjà à la maison.
Et est-ce qu'il vient, justement, à l'EPID, est-ce qu'ils viennent pas chercher autre chose que ce qu'ils trouvent dans le public ?
Oui, c'est pour ça que vous avez trouvé ça un peu marrant.
Il y a ce besoin.
Ils cherchent alors, je vais peut-être pas être psychologue là-dessus, mais ils cherchent peut-être une représentation parentale. Ils ont été livrés à eux-mêmes tout le temps quand ils étaient jeunes. Ils ont le droit de faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, où ils le voulaient. Et quand ils arrivent à l'EPID, on leur donne des règles. Or, des fois, j'ai pas dit que les règles elles étaient acceptées dès le premier jour. Hein.
Mais c'est pour ça, oui.
Des fois, il faut expliquer longuement, avec des mots bien sélectionnés, pour leur faire comprendre. Et généralement, ça passe. Ils se rendent compte. Bon, y en a qui restent avec leur travers. Il y en a. On ne va pas se leurrer. La société française est faite. Voilà quoi.
Ils se rendent peut-être compte aussi que l'EPID est peut-être leur dernière chance, parce que face à tout ce qu'ils ont subi au niveau des établissements scolaires, ben après, il n'y a plus rien pour les aider. Bon, à part peut-être les missions locales, qui n'ont peut-être pas beaucoup de débouchés non plus. Et peut-être que l'EPID, effectivement, c'est peut-être une bouée aussi.
C'est une bouée. Bon, y en a qui le comprennent très, très vite. Moi, j'ai vu le parcours le plus court d'un jeune, ça a été 3 mois. 3 mois, il est arrivé, il savait ce qu'il voulait faire. Et au bout de 3 mois, il est parti en formation, bouché 2 ans. Mm-hmm. Voilà. Donc, il a eu son permis en 3 mois. C'était phénoménal. C'est la première fois que je voyais ça. Mais il y en a d'autres qui vont mettre, malheureusement, beaucoup plus longtemps. Il y en a qui, au bout de 2 ans, malheureusement... On essaye d'éviter au plus possible les sorties sans solution, parce que c'est un constat d'échec, et on n'aime pas les échecs. Mais il y en a qui vont... Moi, j'ai ressorti un gamin en positif au bout de 18 mois. Il a mis 1 an à comprendre que c'était une chance d'être à l'EPID. Et puis 6 mois après, il était parti, quoi. Mm-hmm. Et il est parti positif. Nous, ça nous fait plaisir de voir un jeune revenir nous voir au bout de 3 ans. Et puis voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un emploi stable, j'ai une maison, j'ai... Waouh, ça c'est le plus beau des compliments, quoi.
Et le jeune qui est resté le plus longtemps
C'est 24 mois. De toutes les manières, on ne peut pas rester au plus de 24 mois. Il faut savoir qu'un parcours EPID, c'est, je dirais, un parcours moyen, c'est 8 mois. Voilà, 8 mois. Il signe un premier contrat. Au bout, on a ce qu'on appelle les COF, c'est les conseils d'orientation, formation. En fin de compte, pendant ce COF-là, on décide est-ce qu'il va continuer le parcours, est-ce qu'il a bien compris. On fixe des objectifs à chaque fois. Et à chaque COF, il fait une demande de renouvellement de contrat. Donc généralement, un contrat à 4 mois, deuxième contrat à 4 mois, à 8 mois, généralement, c'est le parcours, il est parti, il est en positif. Après, il y en a, c'est un peu plus long, ça dépendra des freins à relever. Il y en a qui arrivent avec un frein, il y en a qui arrivent avec des dizaines de freins. Quand on arrive à 24 mois, on ne peut pas les garder au-delà. Donc à la fin, à 24 mois, soit s'il est parti en positif, soit malheureusement, c'est une sortie sans solution.
Sans solution. Il y en a beaucoup quand même.
Non.
En général,
non. Généralement, parce que vous avez entre les deux. Hein. Vous avez la fin de parcours avec solution où c'est une sortie positive. Après, vous avez sortie où on va attendre un petit peu pour voir si la graine qu'on a mise à l'intérieur du jeune, elle prend, que les feuilles partent. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent... je ne me rappelle plus le nom exact. La sortie dynamique. Voilà, sortie dynamique. Mm-hmm. Et qui se transforme après en sortie positive, parce que dans les 3 mois ou dans les 6 mois, il a trouvé un emploi ou une formation. C'est la graine qui a mis un peu plus longtemps à germer.
Mais tous les jeunes ne sont pas internes.
Si, c'est un internat, c'est une obligation. Alors maintenant, c'est aussi nouveau. Avant, c'était internat du lundi au vendredi. Mmh. Maintenant, ça peut être de l'internat du lundi au lundi. Donc, on est même ouvert le week-end.
Le week-end.
Justement, il y a des freins. Il y a des jeunes qui, malheureusement, à 18 ans, sont SDF. Hein.
Mmh. Alors, comment vous faites pendant le week-end? Je suppose que vous les formez à autre chose, peut-être
non,
plus
non,
vers...
Non, on ne les forme pas le week-end. Parce que,
non, mais je veux dire, par là, vous leur faites peut-être des sorties culturelles ou non?
Non, les sorties culturelles sont faites dans la semaine.
D'accord.
Le week-end, c'est leur temps de repos, donc on les laisse tranquilles. Mmh. La seule chose qu'on leur demande, ils sont inscrits pour aller au repas, donc ils mangent leur repas, pour leur apprendre aussi à ne pas gâcher la nourriture. Mmh. Donc, ils sont en autonomie le week-end, ils sont sur le centre, il y a une société liberté qui est là pour garder le centre en fin de compte, mais ils ne sont pas enfermés, ils veulent sortir,
ils peuvent sortir, voilà.
Ils veulent rentrer, ils rentrent, on leur demande simplement de tenir le centre en état.
D'accord. Voilà. Alors, pour faire un topo, hein, chaque mission de l'armée auprès des jeunes est dans le même processus, hein, permettre d'acquérir un savoir-faire ou une qualification, apprendre des notions de citoyenneté, effectuer des missions d'intérêt général, mais surtout être acteur de son avenir.
Ouais.
Ce rapprochement armée-jeunesse est une manière de faire connaître l'ensemble de nos armées, de présenter l'attractivité des métiers des armées. Mmh. Mais quel est le petit plus en plus pour toi ?
De quoi ?
Ben, au niveau de l'armée, tout ce que j'ai cité.
Le petit plus.
Le petit plus, il y a bien quelque chose. Et on me fait signe qu'après, c'est terminé. Donc attention à la fin, Philippe.
À la fin, bah, écoutez, je vais vous donner un exemple que je connais très bien, c'est le mien. L'armée, pour moi, c'est ma vie. Voilà. J'aurais passé 30 ans dans les forces françaises à me battre pour vous, pour mes concitoyens, quoi.
Mm-hmm.
Sur tous les théâtres d'opération que la France a ouvert. Il faut savoir qu'un militaire n'aime pas la guerre. Mais c'est simple, pourquoi ? Parce qu'il sait ce qu'il y risque.
C'est ça.
Mais on est préparé à la faire, mais c'est pas pour nous, c'est pour nous défendre tous les autres, quoi. Pour pouvoir défendre ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas les militaires qui déclarent les guerres, c'est généralement les politiciens. Donc voilà.
Ouais.
Mais c'est pas eux qui la font, c'est nous.
Voilà.
Mais moi, c'est ma vie. Vous le savez, c'est ma dernière fois que je porte mon uniforme, aujourd'hui. Donc, je vais le vivre certainement très mal, mais être militaire, là je vais faire un peu de propagande, être militaire c'est pas un métier, c'est une manière de vivre.
Quand c'est une passion, je pense aussi.
Oh, c'est plus qu'une passion,
c'est une vocation.
Non, c'est une manière de vivre.
Ah oui.
On fait tout, au grand désespoir de nos épouses du reste.
Mais, je veux bien le croire.
Mais quand on épouse un militaire, ou quand on épouse une militaire, parce qu'il y en a... Il faut savoir que l'armée française, tiens, c'est l'armée la plus féminisée en Europe.
En Europe, oui.
17, plus de 17% de féminines. On en voudrait beaucoup plus, hein, mais c'est qu'elles ne veulent pas venir. Alors bon, tant pis, quoi. Non, non, non. L'armée, franchement, c'est une école de la vie. Mais la bonne école de la vie. Pas celle où on apprend à être les uns contre les autres, mais à être les uns avec les autres. Et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Enfin, quand je dis qu'il n'y en a pas, on peut avoir n'importe lesquels. Hein. On a des imams, on a tous des rabbins, on en a de tout.
Ouais, mais c'est le vivre ensemble, en fait,
voilà.
Le respect de l'autre.
C'est la tolérance, c'est le respect de l'autre. Parce qu'on se rend compte que, de toute façon, malgré nos couleurs de peau différentes, hein, quand le sang il coule, il est rouge.
Mais par contre, vous serez toujours formateur dans les EHPAD. Voilà.
Ouais, mais pas encore très longtemps. Bon, ben voilà,
notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Philippe de nous avoir...
Merci à vous de m'avoir amené, quoi.
...participé à cette émission qui sera diffusée pendant le mois d'août, le vendredi 11 à 19h, le lundi 14 à 16h30, le samedi 26 à 17h et le mercredi 30 à 2h du matin. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne et contactez-nous à rvm@rvmfm.com. Merci Luc à la technique. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver.